De la COVID-19 a affecté les vies de chacun de différentes manières. Elle a également attiré notre attention sur l'intensification du racisme systémique et de la xénophobie sélective envers nos amis racisés dans notre société canadienne. Il est compréhensible que chacun d'entre nous se sente anxieux face à cette maladie dangereuse. Cependant, ce sentiment d'angoisse ne nous donne pas le droit de commettre des crimes de haine et de discriminer nos amis asiatiques, noirs, autochtones et autres personnes racisées. Il n'est pas acceptable d'associer la maladie COVID-19 aux Asiatiques, en particulier à ceux d'origine chinoise. Il n'est pas acceptable de commettre des abus physiques et psychologiques à l'égard des personnes racisées. Il n'est pas acceptable de vandaliser des entreprises appartenant à des Asiatiques et à d'autres marginaux. Nous devons arrêter de normaliser et cesser d'accepter les comportements racistes et les discours de haine à l'endroit de toute communauté racisée. Au contraire, pendant cette crise d'épidémie mondiale, nous devons ensemble nous éduquer et comprendre les concepts de race, de racisme systémique et de la justice raciale au Canada et ailleurs. Souvenons-nous, malgré qui et où nous sommes tous humaines. Nous devons apprendre à nous tenir ensemble en tant que citoyens du monde pour une communauté plus saine, plus sûre et plus heureuse.
Saturday, March 20th, as CKUT DJ Andy Williams and Never Apart present an afternoon with the goddess of underground hip-hop, Medusa, live and direct from Los Angeles. Medusa is an MC, singer, poet, writer, and professor. Her writing credits include Tupac Shakur's Gridlocked soundtrack, Tina Marie's Mackin' Game, and Arrested Development's Spiritualized People. The event starts at noon with a DJ set by Andy Williams, followed by a film screening, and Q&A with Medusa at 2 p.m. Closing off the event will be a set by Basement Soul. Conversation is in English, moderated by Tracy Valcarcel, curator at Never Apart. Live on Facebook, Medusa, Saturday, March 20th, noon to 5 p.m. This is a CKUT co-presentation.
Come join me March 20th for the Afternoon Delight series. DJ Andy Williams, live stream, good combo, and some information that you probably don't know on the Gangster Guys. See you there. I'm one of them. I'm a twinkle
in the jewelry box. Call me Jim. Soca in your 514.
Are you a DJ? Do you love soca music? Production Sounds is giving all Montreal DJs an opportunity to showcase their talent on CKUT 90.3 FM. All you gotta do is submit a one-hour soca mix to be aired on Soca Sessions late Friday nights. Simply email your one-hour mix as soon as possible to productionsounds@gmail.com.
Listen me, Production Sounds, Production Sounds. Crazy people.
Bienvenue à l'émission Café, une émission pas du tout en direct du studio de mon appartement à Montréal. Ce soir, programme double. Une émission tout en discussion avec une entrevue d'Isabelle Bourdet et l'autrice Dali Giroux sur son dernier livre, L'œil du maître, figure de l'imaginaire colonial québécois. Et une petite incursion dans l'univers méconnu de la marionnette avec Colin Saint-Cyr Duhamel et Sandra Turgeon de la compagnie Les Pas Sortables. Bonne écoute!
Bonsoir. Aujourd'hui, à l'émission Café, on reçoit Dali Giroux, professeure à l'Université d'Ottawa et autrice, qui vient nous parler de L'œil du maître, figure de l'imaginaire colonial québécois, un essai paru en 2020 aux éditions Mémoires d'Encrier. L'œil du maître, c'est un ouvrage qui examine le récit qu'on se fait au Québec de l'indépendance et de la souveraineté, et qui fait le constat que notre imaginaire politique est globalement construit autour de la notion de maîtrise. On se souvient évidemment du fameux slogan « maître chez nous », qui révèle peut-être davantage l'envie de prendre la place du dominant, de devenir le maître, le boss à la place du boss, plutôt qu'un réel désir d'émancipation et de solidarité avec les autres peuples qui habitent le territoire du soi-disant Québec. L'œil du maître appelle à la désertion de ce récit pour nous amener à envisager les possibilités qui s'offrent à nous, les enfants du référendum de 80 ou de 95, de cultiver un imaginaire politique de l'indépendance qui soit réellement décolonial. Dali Giroux, merci de prendre le temps de discuter avec nous ce soir.
Ça me fait plaisir.
Même si L'œil du maître, c'est clairement un essai qui s'inscrit dans la continuité de vos ouvrages précédents, notamment par son approche décoloniale, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un élément déclencheur qui vous a donné spécifiquement envie de traiter de la question de l'imaginaire politique des luttes souverainistes?
Bien, c'est que l'an dernier, tout juste avant la pandémie, je crois en janvier, l'IRIS à Montréal m'avait invité à l'occasion d'un colloque qu'ils organisaient autour du thème « Maître chez nous ». Je pense que ça s'appelait « Maître chez nous au 21e siècle » avec un point d'interrogation. Et je m'étais mis à réfléchir à ça, cette question du maître chez nous. C'est certain que c'était déjà sous-jacent dans toute ma réflexion sur le Québec. Ça apparaît déjà dans mon premier livre d'essai, « Le Québec brûle en enfer ». J'avais commencé à évoquer ce maître chez nous, puis l'idée d'une généalogie de ce slogan politique-là était déjà, dans le fond, sur ma table de travail. Donc, ce colloque-là, ça a été un peu l'occasion de m'y mettre. Et au même moment, à peu près, il y a M. Hamelin, là, le célèbre théoricien de la nordicité et grand souverainiste, qui est décédé à ce moment-là. Et j'étais tombée sur une petite clip qui avait été créée par les Innus pour combattre la présence de Iron Ore sur leur territoire, où il disait « Allez crier maître chez nous en territoire Innu, c'est absolument écœurant ». Et je suis partie avec cette affaire-là en essayant de faire jouer, dans le fond, là, toutes les difficultés qu'il y avait là-dedans, tout le problème que ça suscitait relativement à la question de l'occupation du territoire autochtone. Et d'une part, puis d'autre part, à cette époque-là, ben, ça faisait déjà peut-être quelques mois qu'il était sorti ce texte-là d'Émilie Nicolas dans Liberté, « Maître chez l'autre ». Donc, j'avais comme deux espèces d'entrées là, critiques très contemporaines sur la question du maître chez nous. Puis je me suis lancée avec ça. Et curieusement, c'était le texte d'une conférence, fait que ça devait être une dizaine de pages, je ne sais pas. Mais je n'ai pas été capable d'arrêter parce qu'il y avait d'autres trucs à expliquer, tout ça. Puis je me suis mis à creuser dans toute la littérature décoloniale des années 60. Mais qu'est-ce qu'on a pu dire à cette époque-là de ces choses-là? Puis c'est devenu comme une espèce de... C'est une archéologie, hein, parce que de chapitre en chapitre, on descend dans le sous-sol des mythes collectifs. Et c'est un livre que j' ai écrit d'un trait, je te dirais, à partir de cette conférence-là, disons, entre mars puis juin. J'aurais pu continuer indéfiniment, je pense. Il y a d'autres chapitres. Parce qu'à la fin, tu sais, j'entre dans un truc beaucoup plus littéraire, là, où je vais explorer, dans le fond, l'imaginaire littéraire québécois autour de la notion de maître. Et c'est ça, c'est une enquête ouverte, quoi.
D'ailleurs, vous parlez de la notion de mythe, puis le texte d'Émilie Nicolas fait aussi un travail de démystification que vous faites également de parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient au Québec avec une certaine naïveté que le Parti québécois ou les mouvements souverainistes étaient de bonne foi ou étaient, sans oser dire solidaires, du moins minimalement à l'écoute des revendications autochtones, mais vous démontrez finalement qu'il y a eu vraiment plusieurs mains qui ont été tendues de la part des peuples autochtones qui ont été refusées carrément.
Carrément. Puis ça, moi, je le savais pas, hein, c'était à force de fouiller. Puis la première personne qui m'a aiguillée, c'est Jean Morissette à propos du rapatriement de la Constitution, juste avant que les événements qui ont fait en sorte que le rapatriement a eu lieu se passent. Les regroupements politiques autochtones canadiens, ils ont dit au Québec, let's go, c'est le moment, là. Si on veut faire quelque chose pour bloquer, il faut se mettre ensemble. Puis il y avait une analyse très correcte de la situation du Québec dans le reste du Canada aussi. Et ce qu'on voit, c'est que les tacticiens du Parti québécois, ils ont été peureux, ils ont été frileux, puis c'est sûr qu'il y avait un saut dans le vide à faire à ce moment-là, de dire hey, oui, on fait une alliance vraiment contre le colonialisme, parce que c'était ça la proposition. Puis ils ont eu peur. Puis après ça, j'étais allée beaucoup dans Rémi Savard, qui était un témoin, comme Jean Morissette, très proche. Ils étaient là, ces gens-là, sur le terrain pendant ces événements-là. Puis eux, il y avait toute une lecture beaucoup plus approfondie de qui sont les peuples autochtones, quels sont les enjeux politiques réels, concrets, dans le territoire qui se jouent. Et puis, ce que Savard, je reprends l'analyse de Savard qui fait dès les années 70, il dit c'est que là, il y avait un racisme profond dans la société québécoise qui a fait en sorte qu'on n'était même pas capable de les lire, ces signes-là, qu'on n'était pas capable de comprendre, dans le fond, l'importance de ces luttes-là dans toute la politique en Amérique du Nord, puis dans les Amériques. Puis on le constate aujourd'hui, hein, Rémi Savard, il dit les indépendantistes, ils font vraiment une défaveur à leurs descendants en ne comprenant pas l'importance de ces luttes-là. Et on se retrouve aujourd'hui à dire ils avaient raison, ces gens-là, de dire ça. Mais c'était des voix très, très minoritaires. Et donc, je ne sais pas à quel point... oui, c'est vrai qu'il y a un récit selon lequel les souverainistes étaient... avait une politique peut-être plus ouverte ou plus une oreille mieux tendue envers les peuples autochtones. On va évoquer la paix des braves avec Bernard Landry en 2002, tout ça, mais je veux dire, c'est une cession de territoire au sens de la loi canadienne, c'est-à-dire de l'héritage de l'Amérique du Nord britannique. Et moi, je dis au contraire, ce moment-là où on a négocié la convention de la baie de James, au moment où on l'a comme finalisé sous le Parti québécois en 2002, c'est ce moment-là où vraiment le Québec s'est établi en fait comme colonisateur en français. On s'est servi du droit anglais, puis on a signé une cession de terre avec les Cris en français. Et si c'est ça, la décolonisation, mais ce que je dis, moi, je dis, mais c'est pas ça. On est un petit peu en reste parce que la situation politique, si on la regarde du point de vue, disons, des traditionnalistes autochtones, des différentes luttes qui se passent en ce moment, c'est pas des cessions de terre pour des barrages électriques qui est demandé.
Il n'y a jamais eu de rupture avec la pensée dominante, finalement. Il n'y a jamais eu de réelles nouveautés. Puis vous en parlez un peu dans une sorte de psychopolitique aussi, notre posture morale, où il y a une certaine aigreur, je pense, qu'on sent. Puis quand on regarde l'actualité, c'est assez flagrant avec l'islamophobisme qui est rampant au Québec. Donc on se rend en sorte les mauvais pauvres du colonialisme, puis que cet héritage-là, ça nous rend plus aigres et plus fragiles, finalement, politiquement.
On a emprunté les outils de l'Empire britannique pour notre propre émancipation. Ça fonctionne pas comme on pensait que ça aurait pu fonctionner. Puis oui, il y a une aigreur, vous dites, un ressentiment carrément. Il y a un ressentiment envers les minorités, finalement, qui nous empêche enfin d'accéder à notre statut de majoritaire dominant comme les majoritaires ont toujours été. C'est-à-dire que là, c'était comme notre tour, les Québécois francophones, de contrôler un État puis d'avoir une société dominante où on se sent finalement représenté par nos institutions, par notre culture. Où on sent contrôle de notre économie aussi. C'était pas mal ça, mettre chez nous. C'était culturel, mais c'était surtout économique. Et puis là, ça dure 5 minutes, cette histoire-là, puis ils nous disent « Ah, ben c'est fini finalement, parce qu'il y a plein d'immigrants qui arrivent, les Autochtones revendiquent des droits, puis de toute façon, c'est la mondialisation. » Donc, vous avez raté votre... Il y a comme une frustration. C'est comme le moment où on aurait pu, enfin, être dominant, il était très court. Puis, tu sais, je veux pas le juger, je le conçois, ça. Je veux dire, c'est arrivé comme ça, puis comme de dire le Parti québécois, il a raté les mains tendues. Mais je prétends pas qu'on aurait fait mieux à l'époque, tu sais. Il s'agit pas de refaire l'histoire, mais d'essayer de faire un portrait au moins lucide, là, tu sais, avec les émotions un peu dégonflées, puis en admettant aussi les échecs, de dire, bon, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on est encore capable de se raconter une histoire du point de vue francophone en Amérique du Nord qui nous explique ce qui se passe aussi? Tu sais, moi, quand les péquistes me parlent, ça ne m'explique pas ce qui se passe dans le monde du tout, tu sais? Puis qu'à un moment donné, il faut revisiter les choses, il faut revoir ce qui s'est passé dans les dernières décennies, puis se resituer, puis c'est un peu ça que j'essaie de faire.
Vous rendez bien le fait que ça a été des moments dans notre histoire qui ont été quand même remplis d'affects. On a tous, je pense, vécu ce moment-là où, par exemple, on écoutait Speak White, ou on écoutait les vieux documentaires, où on ressentait quelque chose, puis avec l'esprit critique, qui vient ou pas. Des fois, on se rend compte des problématiques qui étaient liées au mouvement souverainiste, puis on est comme dégonflé, mais vous vous rendez quand même bien le fait qu'il y a eu quelque chose là, il y a eu un ferment là, qui est peut-être possible de revivre mieux, puis ailleurs, ou d'une autre manière.
Bien, ce qu'on a vécu, puis c'est pas tout le monde dans sa vie, dans l'Occident plate, dans la consumériste dans lequel on est organisé, qui a l'occasion de vivre des moments collectifs aussi forts. Et on a aussi peut-être une nostalgie de ça, les Québécois, parce que ce moment-là, puis c'était un moment où... C'était quand même une revendication de justice, puis il y avait des choses légitimes là-dedans, puis ça a porté les gens au-delà de leur personne. Et justement, d'être associé à des luttes collectives, c'est effectivement très affectif, puis ça nous définit comme personne, ça nous définit politiquement. Donc, puis tu sais, peut-être que ce qu'on a vécu de... semblable dans les dernières années, c'est la grève étudiante de 2012. Tu sais, je veux dire, c'était ça, ouais. c'est cette énergie politique-là qui a été là, qui peut revenir, puis qu'on... Je sais pas, moi, en tout cas, j'ai envie de croire qu'il y a quand même il y a quand même un sentiment de révolte quelque part, puis il y a une analyse des pouvoirs politiques qui s'est faite ici, qui est quand même valable. Tu sais, si on est capable de la réinscrire dans une histoire peut-être moins égocentrique, peut-être moins narcissique que le petit Québec.
D'ailleurs, vous appelez à un exercice de pensée qui, je pense, est pour bien du monde radical, c'est de dissocier l'idée d'émancipation de deux... principalement deux choses. La première, c'est l'idée de nation qui est liée au territoire, à l'État, puis à une conception coloniale du territoire. Puis la deuxième, c'est l'idée de propriété, donc de la penser en termes d'usage et d'accès libre et égal au territoire. Et comment ces deux choses-là, pour vous, ça permettrait de peut-être revitaliser la question de l'émancipation?
Bien, je le dis dans le livre, je propose ça comme un exercice de pensée. Non, je ne propose pas d'abolir la propriété, ça ne donnerait rien. Je pourrais proposer d'abolir la propriété, ça ne ferait rien. Et donc aussi de penser les acteurs collectifs ou le collectif sous une autre forme que cette bonne vieille idée européenne de nation et de sa souveraineté, de son État, de son territoire et de sa propriété sur les ressources et de toute son... comment dire, son inscription juridique sous le mode de la propriété privée. Pourquoi je suggère ça? C'est que si on veut développer une critique décoloniale de notre forme de vie, il faut être capable de faire bouger ces choses-là. Parce que c'est quoi le, disons, le carcan onto-juridique colonial? C'est quoi? À quoi sert la Constitution canadienne? Puis pourquoi c'est encore intéressant de la critiquer? Bien, ça sert à réserver les ressources naturelles pour leur appropriation privative, pour les inscrire dans des mécanismes ou des dispositifs par lesquels on accumule du capital. Donc, il y a une articulation très claire entre le contrôle du territoire, la propriété privée, puis l'idée qu'il y a une nation qui, à travers ses organes politiques, pourrait légitimer cet ordre des choses, qui est un ordre d'appropriation puis d'expropriation. C'est ça, le colonialisme. Et à ce titre-là, si on veut se positionner politiquement de manière décoloniale, on ne peut plus simplement s'identifier à un de ces termes-là en dire « oui, mais on va faire mieux ». Dans le fond, c'était ça le PQ. On va s'identifier, la nation va s'identifier à l'État, elle va contrôler le territoire et elle va exercer les prérogatives économiques, mais elle va être plus gentille ou elle va faire mieux. Moi, ça ne m'intéresse pas, je trouve que ça sert à... En tout cas, c'est un autre projet qu'un projet de décolonisation, dans le fond, c'est la nuance que je veux faire. Et donc... essayer de penser à une autre façon de se mettre en rapport dans le territoire en acceptant qu'il y a une pluralité d'univers aussi, de formes de vie qui peuvent s'exercer, puis d'imaginer les façons de cohabiter dans le territoire sans qu'une forme de vie ait pour condition d'existence l'abolition de toutes les autres formes de vie.
Est-ce que, moi, je me suis rendu compte en lisant le livre que, conceptuellement, la notion d'indépendance, c'était très difficile de faire l'exercice de pensée, de la sortir de cette idée-là d'État, nation, territoire, frontière, alors qu'il y a d'autres termes comme autonomie, liberté, etc. C'est, instinctivement, c'est plus facile. Est-ce que c'est important de faire ce travail-là, de sortir le concept d'indépendance de ces arcanes-là, ou l'indépendance a peu d'importance au final, puis l'idée, c'est plus d'amener une pensée décoloniale?
Ben, c'est ça. Indépendance, est-ce que c'est un terme historiquement important ici, ça, c'est sûr. Puis ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même le souci de ne pas faire table rase. Je pense que c'est intéressant aussi d'aller rechercher des forces qui sont un peu flottantes. Tu sais, les gens, disons, la génération de mes parents, de mes grands-parents, eux autres, ils se sont projetés là-dedans, cette idée-là d'indépendance. Puis, tu sais, oui, elle voulait dire la souveraineté d'un État à partir du moment où le Parti québécois, c'est-à-dire quand même une élite, là, s'est accaparé du projet, puis l'a défini dans des termes très électoraux, puis très étatistes, tu sais, atteindre à la normalité à travers un État. Mais mon sentiment, puis en fouillant dans cette poubelle symbolique que sont les archives de la vie politique québécoise, je vois quand même qu'il y avait plus que ça dans l'indépendance. On a mis des choses là-dedans autres. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, indépendance. Pas que j'y tienne tant que ça, mais je réfléchis à haute voix là, avec votre question. La deuxième chose, c'est que l'indépendance est quand même historiquement liée au fait de se détacher de la métropole, donc de se décoloniser. Donc, avec liberté puis autonomie, t'as pas l'articulation avec décolonisation. Donc, ça, c'est un autre aspect intéressant. Puis après, ben, c'est sûr qu'on peut jouer avec. Je pense à la déclaration de souveraineté des Atikameks publiée en 2014, super belle. Eux, ils disent, nous, on ne veut pas l'indépendance, on veut l'interdépendance. Donc, c'est-à-dire tu sais, que de retravailler le mot, de le déconstruire, il permet aussi de réfléchir à ces choses-là. Justement, c'est quoi? La question de la dépendance est très intéressante. Enfin, je n'ouvre pas ces portes-là, mais disons toute une réflexion de critique de l'économie politique qui est possible aussi autour de cette... ça évoque des notions de critique d'économie politique, l'idée de la dépendance et de l'indépendance. Mais je dirais que c'est une constellation de concepts politiques qui fonctionnent ensemble. Puis la manière dont je travaille, que je produis de la pensée politique, pour moi, c'est de créer des espaces où on peut travailler, puis on peut... agglomérer des choses. Je cherche pas à discriminer tant qu'à ouvrir, finalement. Puis je trouvais, en tout cas, je me donnais ce défi-là aussi. C'est un défi parce que c'est assez facile de dire « Ah, que je me débarrasse de tout ce débat un peu problématique en n'utilisant pas les termes. » Mais en même temps, j'ai l'impression que on parle de l'attraction. On dirait qu'en vieillissant, j'aime utiliser les termes plus mainstream, juste pour... parce que je fais confiance à la radicalité de la pensée aussi. Elle ne dépend pas simplement des mots, tu sais. Ça dépend d'une inscription dans une réalité, puis d'être capable de la travailler dans ses paradoxes. Moi, je me lance sur les contradictions. Donc, indépendance, c'était parfait pour moi.
Oui, puis on sent qu'il y a beaucoup de portes ouvertes là, dans le livre. Il y a beaucoup de mains tendues. J'ai senti qu'il y avait une bienveillance dans l'ouvrage de dire, oui, on a raté des opportunités, mais il y a peut-être encore des possibilités. En fait, il y en a plusieurs des possibilités, puis notamment de réellement connecter et apprendre des épistémologies autochtones. Vous en parlez beaucoup, mais j'ai aimé beaucoup l'expression d'arriver enfin dans l'Amérique du grand cercle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous voulez...
Tout ça, ça vient de Georges Siwi, puis de ce que j'ai appris à travers son travail, puis en le côtoyant aussi. Mais moi, ça m'a pour une auto-histoire, pour une histoire amérindienne de l'Amérique de Georges Siwi, je l'ai lu à la fin de mon bac à l'Université Laval. Au milieu des années 90, puis je lis ça, tu sais, qu'on pourrait enfin arriver en Amérique, puis raconte toute une autre, même pas une version de l'histoire, c'est une autre pensée de l'histoire. Puis là, je suis tombée par terre, tu sais, parce que j'avais jamais entendu parler de ça de ma vie, puis je sais, tout à coup, je découvrais, tu sais, comment on vivait dans des narratifs, puis comment ils structuraient le territoire, puis comment, en fait, un territoire, c'est une structure de possible aussi, de monde possible, de réalité possible. Et donc, tu sais, c'est... Donc, arriver enfin en Amérique, c'est de dire aussi les habitats, les territoires, ils sont cosmisés, ils sont nommés, ils sont habités, ils sont l'objet d'usage et tout ça se transporte aussi dans des récits et c'est un désir de... C'est un désir de susciter une curiosité par rapport à ces récits-là qui circulent dans le territoire, dans les territoires. Après, je veux toujours être prudente parce que il y a aussi comme un peu on a un peu peut-être un réflexe, je ne vais pas dire d'appropriation, mais un peu d'avoir une vision un peu simple de dire « Ah oui, intéressons-nous donc aux personnes autochtones » puis d'aller les achaler pour qu'ils nous disent des choses extraordinaires. C'est pas ça. Je veux dire, moi, j'ai pris quand même 20 ans avant d'écrire ce livre-là, avant de me permettre de parler de ces choses-là. C'est une longue, longue fréquentation de la littérature, des personnes... de tout, mais très modestement, tu sais. Mais déjà, juste de faire un travail, disons, sincère, de comprendre différemment comment fonctionnent les imaginaires politiques et de réaliser qu'il y a des imaginaires politiques dans les Amériques, puis de s'engager au moins à de l'écoute, déjà. À une vraie écoute, tu sais, puis... une patience aussi.
C'est là peut-être que notre historique de récit, qui est peut-être un peu une absence de récit, là. On n'est ni européen, ni autochtone, on a quelque chose comme une histoire subalterne, prolétarisée, exploitée, mais voilà, on est comme dans une impasse, puis je pense que c'est un mal-être qu'on ressent beaucoup.
Ouais.
Je pense que de saisir ça comme une opportunité, j'ai trouvé que c'était tellement une idée qui pouvait ouvrir beaucoup de portes, justement, parce que on a l'opportunité de tendre l'oreille puis d'aller vers un ailleurs. Là. On n'est pas trop figé dans un récit.
Oui, puis tout à fait, c'est ça, cette espèce de pauvreté qui est une chance. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de vivre ma vie, je n'ai rien d'autre. Puis tu sais, tout le travail que j'ai fait dans Parler en Amérique, mon ouvrage précédent, c'était aussi d'essayer de montrer il est où cet espace de parole subalterne, justement, dans lequel on peut vraiment se rencontrer entre humains, entre groupes, entre collectifs, autrement que dans le récit constitué individu, État, médias, politique, élections, théorie universitaire. Mais si on va vraiment dans l'horizontal, dans le fond, dans ce que j'aime appeler les usages, c'est dans la contiguïté. Qu'est-ce qui te touche? Puis si tu parles aux gens autour de toi, y compris les plantes, les animaux, tu vas rencontrer toutes sortes de récits puis toutes sortes de mondes qui ne sont pas la représentation qu'on se fait de très réifiée, justement, de ce qu'on est. Puis du seul fait, par exemple, de parler français en Amérique puis de parler un français qui est... Tu sais, on est en état de diglossie, c'est-à-dire que moi, je parle pas la langue que j'écris. Juste exact. Ça, c'est assez extraordinaire. Ouais. Et j'ai des niveaux de langage pour chaque catégorie de personnes, selon sa classe sociale, selon la région d'où elle habite. Et je fonctionne là-dedans de manière... C'est ça, ma pauvreté, tu vois. Ouais. Et dans ce subalterne-là, ben il y a de la vie. C'est un plurivers, dans le fond. Disons, c'est une utopie politique. Un peu, rencontrons-nous dans les lieux de vie plutôt que dans les lieux de pouvoir.
Ouais.
Avec ce que nous avons de plus pauvre, tu sais.
Ouais.
Moi, je trouve que ça guérit un peu peut-être quelque chose, en tout cas en moi, de cette blessure québécoise d'être pas assez ça, puis d'être pas un vrai maître. Puis en plus, là, maintenant, on n'est même plus des vrais colonisés, mais coudonc, on est vraiment rien.
Je dirais, en tout cas, peut-être ça a vraiment...
super.
En tout cas, ça a vraiment fait du bien, je pense, d'avoir un point de vue, j'oserais dire, anarchiste, sur la question de l'indépendance, ouais. Mais qui entre en contact vraiment dialectiquement avec cette question-là, pas juste de la balayer comme un champ de mine. Ça a été vraiment, personnellement, en tout cas, un exercice qui a fait du bien. Puis malheureusement, le temps passe vite, fait que je vais vous demander, en terminant, comme on est une émission culturelle, on s'intéresse aussi à la démarche de création. Donc, l'œil du maître s'est créé dans un environnement. Concrètement, comment ça s'articule pour vous, l'exercice de création? Est-ce qu'il y a des conversations, des lieux, des méthodes qui se croisent puis qui favorisent votre écriture?
Ouais, moi, j'essaie vraiment d'écrire ou de créer en activant ce plan d'existence de la parole subalterne que j'essaie de théoriser. Et donc, pour moi, les conversations, les choses entendues, une phrase à l'épicerie devient un objet d'analyse, les photos, soit l'usage des photos de famille, tout ça, ça, c'est un peu, c'est pas un hasard, mais c'est-à-dire... ma tante me dit, écoute, j'ai tout ce stock de diapositives, ma grand-mère est déménagée, tout ça. Elle dit, je sais pas quoi faire. J'ai dit, donne-moi-les. Je me suis mis à les numériser. Là, je suis tombée sur un voyage à Frontier Town. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'ai appelé ma tante. Donc, j'essaie. Puis en même temps, tu sais, je veux dire, je lis de la philo, je lis de l'histoire. J'essaie de. Mon processus de création, il est. J'essaie d'écrire comme si je parlais. Je pense que je parle quand j'écris, en fait. Mm-hmm. Puis j'essaie d'être en immersion avec tous les artefacts de paroles qui me sont contigus. Ouais, ça, c'est ça. Je me considère comme une genre de vidangeur, en fait. Le vidangeur à la petite semaine. Je ramasse toutes sortes de choses. Tu sais, des fois, ça prend des années, je ressors des trucs, puis tout ça. Donc, je suis un peu collectionneuse aussi. Mais certainement en dialogue, puis je l'ai fait lire. J'ai fait lire des chapitres à plusieurs amis, à des collègues, tu sais. Il faut que ça résonne, puis mm-hmm. je l'ai fait lire à des gens, pas nécessairement qui vont me donner des tapes dans le dos, là. J'essaie d'être tout en étant effectivement probablement radical et sûrement un peu, tu sais, un peu baveuse, là, très affirmative, mais j'essaie d'être honnête le plus, tu sais, j'essaie d'être le plus honnête possible, en tout cas.
Mais on sent ce niveau intime-là qui côtoie le niveau très... Mm. Merci beaucoup, Dali Giroux.
Grand plaisir.
Très bonne soirée.
À vous aussi.
Bonsoir, Marc-Antoine au micro. J'ai eu la chance cette semaine de rencontrer Sandra Turgeon et Colin Saint-Cyr-Duhamel, deux êtres vraiment fantastiques qui œuvrent tous les deux dans l'univers de la marionnette. Alors je vous dis dès le départ, c'est deux personnes colorées, c'est deux personnes lumineuses, puis ça fait du bien de rencontrer des artistes comblés, puis c'est eux-mêmes qui le disent, spécialement en temps de pandémie. Bonne écoute.
Donc moi, en fait, je suis venu à la marionnette par un chemin tortueux. J'étais enfant passionné par les sciences, je voulais être inventeur, mais j'étais aussi l'enfant qui racontait des histoires aux autres enfants à l'école, puis le monde me courait après dans les couloirs pour entendre la suite, puis ça m'a suivi l'idée de vouloir inventer, patenter des choses, puis raconter des histoires en même temps. Et par la marionnette qui est arrivée dans ma vie par hasard, j'ai trouvé le métier qui combine les deux affaires que j'aime faire, finalement. Ben, dans mon cas, j'ai eu un coup de pouce du destin, de la chance, disons, parce que j'avais, dans mon entourage, quand j'étais petit, les parents de ma meilleure amie avaient un théâtre de marionnettes, le théâtre de l'Illusion à Montréal. Et... quand j'ai annoncé à mon amie que je m'en allais étudier en théâtre au cégep, elle m'a dit « Ben, viens travailler cet été et tu vas voir si t'aimes ça faire du théâtre. » Puis ça s'est attelé à être un théâtre de marionnettes qui m'a accueilli.
Oui, moi, en fait, j'ai un parcours un peu différent, bien sûr, comme tout le monde, de celui de Colin. En fait, j'ai découvert la marionnette par... le cours que j'avais fait en scénographie à l'UQAM. Donc, j'étais déjà plasticienne, j'ai étudié en art visuel, donc tout ce qui est, mettons, les costumes, j'aimais déjà ça, fabriquer, l'esthétique et tout ça, j'aimais vraiment ça. Puis quand j'ai fait scénographie, pour vrai, j'avais jamais vraiment touché la marionnette. Puis il y avait un cours d'initiation dans le programme à l'UQAM. Et j'ai comme un peu flashé, j'ai comme réalisé que ça combinait comme un peu tous les milieux que j'aimais, tu sais, tu pouvais faire fabriquer le personnage, donc tu n'avais pas nécessairement à avoir les contraintes, mettons, d'un acteur, aussi bizarre que ça puisse dire. Donc, tu pouvais choisir les costumes, tu pouvais faire la scénographie, tu pouvais autant faire la conception, la fabrication, tu pouvais manipuler après, tu pouvais comme un peu tout choisir quand tu fais des spectacles de marionnettes, fait que ça l'amène une espèce de... Je sais pas, il y a des gens comme... Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu de la marionnette qui aiment ça, ce côté-là un peu multitâche où tu peux toucher un peu à tous les aspects de la production d'un spectacle. Donc moi, en fait, c'est une des choses qui m'a un peu fait comme découvrir puis tomber en amour avec la marionnette à ce moment-là. Puis dans le fond, les deux, on était en scénographie ensemble. Puis on a décidé d'aller faire le DSS de marionnette en même temps, en fait. Donc tout après... après la scénographie.
C'est quelque chose qui est assez courant dans le milieu de la marionnette, d'avoir des artistes qui sont un peu des touche-à-tout du monde qui veulent dessiner, construire, sculpter, peindre et jouer dans des spectacles. C'est quelque chose qui, moi, m'a attiré dans ce domaine-là.
Je trouve que dans le milieu marionnettique, t'as comme pas vraiment de limites ou de contraintes. Tu sais, justement, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Autant, tu sais, justement, ton personnage, tu peux le démembrer si tu veux. Donc, aussi, tu sais, un spectacle de marionnettes qui est comme bien monté, on va s'attacher beaucoup au personnage. Fait que c'est sûr qu'on peut leur faire vivre des autant physiquement ou des émotions, quoi que ce soit, que ça pourrait être super dur de faire avec des acteurs. Donc, il y a ça aussi qui est vraiment intéressant parce que c'est différent que... Ça apporte une dimension qui est un peu différente que le milieu avec des acteurs humains. Donc, autant dans ce qui est physiquement, donc le fait qu'on peut faire à l'objet marionnettique soit le démembrer ou on pourrait le brûler ou quoi que ce soit, on peut faire vraiment des trucs comme ça. Puis il y a aussi souvent l'espèce de... Comment je peux dire... la projection que les gens font dans la marionnette qui va être... Tu sais, on dirait que l'humain, vu que c'est quelqu'un, déjà, même si c'est un très bon acteur, on voit l'humain qui est derrière le personnage, je sais pas comment l'expliquer un peu, alors que la marionnette, ben, tu sais, des fois, ça facilite aussi, justement, entre autres avec les enfants, là, c'est quand même bien reconnu que les enfants vont vraiment facilement plus se sentir interpellé, puis ouais,
ben, avec, se projeter. Avec juste l'apparition d'un visage, du visage attachant d'une marionnette, on peut réussir à avoir un « oh » du public, une réaction instinctive comme ça, qu'on pourrait pas avoir de la même façon avec un comédien, peu importe le costume. Et je trouve, tu as parlé du public enfant, mais je trouve qu'avec un public adulte, la marionnette est un super beau cheval de Troie parce qu'on s'attend pas à ce qu'elle nous touche, à ce qu'elle soit sensible, à ce qu'elle soit brutale, crue, carrément obscène. Et la marionnette peut être tout ça, finalement. Puis un public adulte est sans cesse surpris. C'est comme, oh, c'est la première fois que je vois un spectacle de marionnette pour adulte. Ouais, on en fait depuis des années, mais chaque fois, c'est la première fois. Et c'est ça que je trouve qui est un beau cheval de Troie, c'est qu'on arrive déguisé à l'air de rien, en marionnettiste. Et puis finalement, les gens sont comme, ah! C'est très proche de la bande dessinée ou du dessin animé, la marionnette, en ce sens-là, où on se dit, ah, c'est tout simple, c'est des personnages aux traits simplistes pour les enfants. Et puis finalement, on se rend compte aujourd'hui que non, tu sais, il y a, je sais pas, je pense à Michel Rabagliati puis les Paul qui a fait un peu découvrir la BD pour adultes au Québec. Les Pixar qui, de plus en plus, fait des films qui sont de moins en moins pour enfants. Il y a quelque chose dans ces médiums-là qui vient toucher tout le monde, en fait.
Puis je voulais juste faire un parallèle. Moi, en fait, c'est que tu sais, on parlait, mettons, des animations, les films d'animation. Puis je faisais juste, en fait, le parallèle, justement, avec les animatronics tout ce qui est fait juste en animation. Puis, tu sais, il y a aussi, ça revient de plus en plus parce qu'on dirait que les gens retrouvent un intérêt à aller vers quelque chose qui bouge pour de vrai, puis justement, tu sais, fait qu'on dirait que ça vient retoucher encore une fois ce qu'on peut aller chercher avec la marionnette qui est comme une sensibilité parce que la matière bouge vraiment comme ça, tu sais, comme...
Tu parles des effets spéciaux au cinéma, là.
Oui,
CGI versus digital versus animatronics, exact. Qui serait la version robotisée ou manipulée. Analogue des
exact,
choses.
Comme
exact.
On voit une espèce de retour en ce moment dans la franchise de Star Wars vers justement plus de marionnettes alors qu'il y a eu l'espèce d'âge d'or du CGI. Puis il y a le petit côté charmant des personnages qui bougent pas partout finalement.
Oui, c'est ça. Qui ont quelques expressions bien calculées. Ben. Fais la conception, une des premières questions, ben, dans les premières questions que tu dois te poser, c'est à quoi va servir la marionnette? Parce que, mettons, les erreurs un peu de débutant, hein, ça va être de vouloir que la marionnette, elle bouge de partout, puis elle ait toutes les articulations, tous les mécanismes possibles, parce qu'on a l'impression que ça nous offre toutes les possibilités, puis finalement, elle est plus manipulable, ça prendrait 4 personnes, c'est pas aussi intéressant. Donc, c'est sûr que c'est un mix des deux. C'est l'art de la manipulation et l'art de la fabrication. Si la marionnette n'a pas nécessairement elle répond pas aux contraintes auxquelles elle devrait, ben c'est sûr que la manipulation va pas faire des miracles non plus. Mais c'est sûr que quand on fabrique, quand on fait la conception, on va toujours se demander c'est dans quel but, qu'est-ce qu'on a besoin. Des fois, on va avoir la même marionnette, comme pareil à la même échelle, mais qui a deux, les articulations sont pas, par exemple, aux mêmes endroits parce qu'il y en a un qu'il faut qu'elle court, puis dans l'autre, il faut qu'elle nage, par exemple, je dis n'importe quoi, mais... Ouais.
C'est, effectivement, on a l'impression qu'une marionnette doit tout faire, et au final, on peut faire avec une marionnette qui est très simple. Je me rappelle un des premiers shows de marionnettes que j'ai vu quand j'étais tout petit. Déjà, avec mon œil scientifique, je regardais ça, puis je me disais... Mais comment la bouche est faite pour bouger? Parce que je voyais clairement qu'il y avait juste une poignée simple en arrière de la tête, puis que ça pouvait pas, il n'y avait pas de gâchette, il n'y avait pas de fil pour faire bouger la bouche ou quoi que ce soit. Et la question m'est restée dans la tête jusqu'à ce que plus tard, en tant que marionnettiste, je vois la même marionnette dans une exposition et que je réalise qu'elle n'avait pas de bouche animée. Mais tout le long du spectacle, étant enfant, je voyais sa bouche bouger. À chaque fois qu'elle parlait, alors qu'elle faisait juste bouger la tête, moi... ses lèvres disaient le texte.
C'est croyant, à ce point-là.
Ta question sur qu'est-ce qui est le plus important, la confection, la conception de la marionnette ou la manipulation le sur jeu, la scène, oui. Mais je pense que c'est très difficile de faire l'un sans l'autre. Oui. Il faut savoir comment la marionnette est manipulée et pour la fabriquer. Il faut savoir comment... C'est ça, il faut savoir manipuler pour savoir fabriquer. Puis, en spectacle, si tu manipules une marionnette et que tu es en coulisses et que sa tête arrache 2 secondes avant ton entrée en scène, tu as intérêt à avoir des notions de fabrication pour te patcher aussi.
Mais c'est ça, du moins pour les auditeurs. Moi, mon court passage dans l'univers de la marionnette très amateur m'aura aussi fait réaliser à quel point les marionnettistes professionnels, vous semblez être les gens qui sont capables de faire le plus avec du styromousse puis des broches. Je veux dire, c'est... Tu sais, si vous voulez en parler aux gens, tu sais, souvent, on voit les marionnettes, elles sont grosses, mais derrière la marionnette, c'est des matériaux souvent peut-être pas si nobles que ça, tu sais, qui vous permettent de faire beaucoup avec du bricolage expert. Là.
Ouais, ben souvent aussi, je pense que une des raisons, entre autres, c'est que la plupart des matériaux qui sont pas nobles, comme tu dis, c'est les matériaux les plus légers. Il y a quelque chose aussi de... On va vouloir très souvent que ce soit léger, donc on va aller vers des matériaux qui nous offrent ça. Les budgets aussi. Il y a plein de contraintes, mais...
Mais au final, on est amené à connaître énormément de matériaux diversifiés. Il n'y a pas de magasin pour marionnettistes. Si tu es ébéniste, tu vas au magasin pour les ébénistes. Oui. Si tu es peintre, tu vas au magasin pour les peintres. Les marionnettistes font le tour de toutes ces places-là, des shops de voiliers, des boutiques chasse et pêche, puis vont se bâtir un arsenal de connaissances matérielles assez large pour couvrir l'étendue des problèmes. Pour vrai, je pense qu'en cas d'apocalypse, si tu as un marionnettiste avec toi, c'est comme un bon ami à tenir à côté, là.
Mais tu sais, comme tu disais, dans chaque... c'est comme si dans chaque magasin, on a un ou deux objets qu'on va acheter tout le temps, là. Tu sais, les aimants, c'est là. Les springs, c'est là. Le fil à pêche, c'est là. Puis c'est malheureusement pas tout à la même place. Puis aussi, quelque chose qui est particulier, c'est qu'on n'a pas... On peut difficilement avoir de l'aide ou demander de l'aide d'un autre professionnel. Je parle pas du milieu... marionnettique, parce que oui, entre nous, on peut, mais tu sais, si on va à Quincaillerie, combien de fois les gens nous demandent c'est pour faire quoi? On est comme, non, on se lance pas là-dedans, monsieur, je veux pas t'expliquer, je veux faire un coude, tu sais, pour ma marionnette, parce que ça, on rentre dans...
Ah non, j'ai pas ça. j'ai pas ça, moi, coude. Des coudes de marionnette.
Exact. Donc, faut vraiment, en fait, comme tu dis un peu, faut vraiment penser à partir de la matière. Tu sais, on va jamais ou presque avoir un objet qui est déjà efficace pour faire un mécanisme ou un coude ou quoi que ce soit. Il faut quasiment juste partir des objets, t'sais, vraiment de la matière, puis se dire comment je peux les assembler, les coller, faire mes pivots et tout ça. Il faut vraiment partir de zéro à chaque fois. L'importance de chaque caractéristique, de chaque matériel, chaque matériau, pardon, est vraiment importante. T'sais, si on a besoin justement d'une broche, d'un fil de fer de telle dimension, qui a telle robustesse, t'sais, c'est super important à chaque fois. T'sais, c'est un peu une blague de dire comme, mettons les ressorts, les springs, comme... Il y en a, on trouve jamais le spring parfait quand on a besoin. C'est comme s'il est toujours trop gros, trop petit, il tire trop, il marche pas. Fait que c'est vraiment important. Donc, comme chaque matière qu'on utilise, la densité du foam va être importante. C'est comme si tu peux un peu rien laissé au hasard, mm-hmm. ou tu fais avec quand c'est peut-être ta production ou quoi que ce soit. Mais ouais, faut comme un peu. Des fois, c'est de l'essai-erreur, puis des fois, c'est de la connaissance. Là, avec le temps aussi, on a appris qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Mais tu sais, avec les postes hors table, c'est du théâtre de rue. C'est notre compagnie, c'est ça, c'est du théâtre de rue. Je dirais qu'on a beaucoup opté pour. Tu sais, comme tu l'as mentionné un peu tantôt, Colin, c'est d'essayer d'aller toucher, d'être plus familial que pour enfants, entre autres. Donc, c'est quelque chose qu'on essayait d'avoir.
Si t'as pas de famille, viens voir le show pareil, là, il est pour toi.
Oui, exact.
C'est pour tout public.
Oui, exact. Exact, pour tout public. C'est sûr qu'on a beaucoup envie de créer des univers, des ambiances. Tu sais, on a comme envie un peu que quand on nous voit passer, il y a vraiment comme un univers qui se crée juste avec les deux ou trois personnages qu'on va montrer. Ben oui, ben mettons, côté plus personnel, c'est sûr que moi, je vais être beaucoup influencée. Mettons, la finition des choses, pour moi, est importante. Le détail, vraiment, comme... Je vais très souvent dans un atelier... je vais être capable de travailler sur toutes les étapes, mettons, de la production, mais c'est sûr que si je travaille dans un plus gros atelier, je vais souvent être vraiment, vraiment plus... je vais travailler beaucoup plus vers les étapes finales qui vont être vraiment toutes minutieuses et tout ça. Donc moi, je vais être vraiment beaucoup là-dedans, la recherche d'une espèce de cohérence entre les couleurs, entre les matières, les détails, qu'est-ce qui fait que le personnage, dans son petit détail, va devenir soit attachant ou soit quoi, tu sais, comme peu importe l'émotion qu'on veut lui donner. Donc moi, je vais vraiment travailler plus, encore plus là-dedans.
La peinture, le tissu.
La peinture, le tissu, la patine, ouais.
De mon bord, on est dans la complémentarité parce que moi, je suis beaucoup dans les structures, dans les mécanismes qui sont en dessous, dans des gros traits très brut. Comment?
Brut, un peu.
Ouais, un peu brut, un peu... ouais, c'est tracé au gros crayon Sharpie, mes affaires. Puis il y a toujours une espèce d'approche un peu, je pense, un peu analytique à ce que je fais. Là, pour m'occuper de la pandémie, je me suis inscrit à Polytechnique en design et fabrication mécanique. Là. C'est pour aller chercher encore plus d'outils de ce côté-là. J'ai vraiment la chance, comme marionnettiste, d'avoir une carrière qui allie autant l'interprétation que la fabrication.
Ouais, tu joues beaucoup, toi.
Je passe à peu près la moitié de l'année en tournée en temps normal, tournée principalement à l'extérieur du pays. Puis je reviens le temps de travailler dans des gros ateliers, pour que ce soit pour des productions en guillemets à grand déploiement ou nos productions personnelles qu'on crée dans l'atelier chez nous, parce qu'on est coloc, puis on a un tout petit atelier qui nous permet de faire...
De créer quand on a envie.
Ouais, c'est ça, de se faire plaisir avec des projets qui nous tiennent à cœur.
On a plusieurs spectacles qui tournent régulièrement, dont Les Vieillards et la mère, puis Bazar Naham. C'est les deux qui ont tourné et qui tournent encore le plus. Même qu'on a réussi à faire quelques sorties.
Cet été.
L'été passé, ouais.
Des surprises impromptues dans les parcs.
Sans rassemblement, là, c'est vraiment juste... Ouais, donc ça, on a réussi. Puis, pour le futur, en fait, on travaille encore en ce moment. L'air de rien, il y a des productions recommencent et tout ça. Donc, on a eu la chance de ne pas trop arrêter de travailler non plus. Donc ça, c'est vraiment... on est très contents de ça. On a travaillé de la maison ou surtout de l'atelier ici pour certaines compagnies. Nous, en ce moment, on n'a pas nécessairement une nouvelle production sur laquelle on travaille là, avec les postes sur table.
Avec les postes sur table, non. Ça va être la tournée de nos spectacles cet été, si les choses reprennent bien. Pour ma part, il y a des marionnettes que tu as fabriquées qui vont être dans le spectacle Storyville Mosquito de Kid Koala qui va
tourner. Oui, il y a de la demande partout, en fait. Fait que, tu sais, que ce soit justement dans le milieu de la musique, dans le milieu des spectacles un peu musical, Broadway style, mettons, il y en a aussi. Des fois, ça va être pour des tout petites des tout petites représentations, soit dans les théâtres, des fois c'est dans les parcs aussi, on a fait des apparitions dans les parcs. Il y a de la demande un peu partout. Colin a travaillé sur des vidéoclips aussi.
Oui, c'est vrai, ça, on peut en parler. je pense que c'est... Attends, c'est-tu... Oui, c'est à la fin mars, au Centre Phi. Il va y avoir le projet Astéria, qui est une série de créations de vidéoclips en réalité virtuelle. Puis j'ai eu la chance de faire la conception d'un clip pour Daniel Bélanger sur la chanson de son dernier album, Le Triomphe d'une perruche. Et là-dedans, ben, on a créé une expérience de réalité virtuelle immersive en marionnette, où on se retrouve avec la fameuse perruche triomphale à 2 pouces de la face et à vivre son histoire d'enfermement dans une boîte de carton parce qu'elle s'est brisée l'aile. Mais le Québec, je pense, est un endroit qui est vraiment vibrant pour la marionnette. Je pense que c'est peut-être un des plus beaux endroits au monde où être.
Ah,
Il y a, c'est surprenant parce que on n'en entend pas beaucoup parler. Mais on est un milieu assez bouillonnant. Là. Je pense qu'à Montréal, je dirais qu'il doit y avoir pas loin de 200 marionnettistes au moins. C'est sûr qu'on se connaît tous un peu. Puis, à un moment donné, les noms circulent. On finit par se reconnaître de visage et de savoir les personnalités et les particularités de chacun. Puis se référer les contrats qui nous conviennent le plus. Après, je pense que les gens pensent qu'il y a beaucoup moins de marionnettes qu'il y en a parce que les gens vont pas se rendre compte que les choses sont des marionnettes. Si tu es dans un festival, que tu vois un grand échassier qui a l'air de chevaucher une autruche, ben cette autruche-là, c'est une marionnette aussi. Une marionnette, c'est pas juste le théâtre de Guignol dans un petit castelet qui se tape sur la tête, ou c'est pas juste des pantins. La marionnette, c'est n'importe quel personnage qui est manipulé. Les gens, on s'en sont rendu compte quand les géants sont venus il y a quelques années avec Royal Deluxe. Ben, ça a fait comme « Ah, ok, la marionnette géante, c'est aussi de la marionnette. » C'est un domaine qui est super vaste et les gens se rendent pas compte des fois qu'ils voient de la marionnette.
Ok. Puis nous aussi... on a adapté, en fait, c'est intéressant aussi de parler, tu sais, par rapport à la COVID, il a fallu se réinventer un peu, puis on a travaillé sur un projet qu'on a filmé aussi, donc, qui c'est des courts-métrages. Donc, c'est ça, en fait, on avait demandé une subvention, je sais pas si tu veux peut-être, t'es plus,
oui.
Tu veux en parler?
Dans c'est ça, la réinvention pandémique, on s'est mis à travailler un peu plus avec la vidéo, entre autres par le projet Minimal Minute qui va être bientôt disponible en ligne pour tout le monde. C'est une série de courts-métrages de marionnettes minimales. C'est comment raconter les histoires le plus simple possible pour venir chatouiller le cerveau au bon endroit, juste mettre un sourire sur le visage ou faire vivre un moment d'émotion. Les marionnettes, c'est des petits cubes de mousse qui sont manipulés de façon, je pense, super attachante. Par Sandra et par moi aussi. Et on a construit ces petites histoires-là en s'inspirant de ce que la science a à dire sur comment raconter des histoires pour aller toucher le cerveau humain. On a tous envie de se faire raconter des histoires, ça fait partie de toutes les cultures. Et il y a des raisons neurologiques pourquoi est-ce qu'on aime ça. La réouverture des cinémas sans les salles de spectacle a été un des plus gros « fuck you » qui a été faite à l'ensemble du milieu des arts de la scène. Puis, le problème du popcorn n'existe pas au théâtre. C'est comme... C'est une aberration en ce moment, puis j'ai juste hâte qu'on puisse repratiquer notre métier qui on attend juste ça. Les projets sans ligne, sans pile, en ce moment, là, il y a de la pression dans les tuyaux, puis on attend juste que ça ouvre, mais la pression monte, puis à un moment donné... On va sortir dans les rues là, parce que c'est une situation qui est intenable pour nous. On peut nous trouver, en ce qui touche notre compagnie, Les Pas Sortables en théâtre de rue, sur Facebook, en cherchant Les Pas Sortables. Moi, je suis sur Instagram, @puppetcolin, comme marionnette en anglais.
Oui, moi, sur Les Pas Sortables aussi, bien sûr, mais sur Instagram, c'est sandra.cendre, C-E-N-D-R-E. Donc, vous pouvez nous retrouver, voir un peu qu'est-ce qu'on fait de nos vies.
What's the matter? Is everything all right? That's okay. I've got just the right thing for you. KKUT 90.3 FM.
Hola amigos, bienvenidos a nuestra emisión quincenal escuchando América Latina. Y en CKUT 90.3 FM.
Les informaremos a ustedes sobre el arte, la cultura, poesía y turismo.
También tenemos deportes, información actual y mucho más.
América Latina, ¿eres tú?
América Latina es ella.
América Latina es él.
América Latina, somos nosotros. América.
Argentina.
Bolivia,
Brasil,
Chile,
Costa Rica,
Colombia,
Cuba,
Ecuador,
El Salvador,
Guatemala.
América. Honduras,
México,
Nicaragua,
Panamá,
Paraguay,
Perú,
República Dominicana,
Uruguay,
Venezuela.
Pasan los días y yo desesperando y tú contestando.